France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Après le faux départ du mois de mars, la fameuse affaire Big Malion revient sur le devant de la scène judiciaire avec cet après-midi la reprise d'un procès en correctionnel où il sera question du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. C'était en 2012. Le procès en question va durer un mois et l'ancien chef de l'État récemment condamné à de la prison ferme dans une autre affaire, celle des écoutes, ne sera pas présent au tribunal, en tout cas pas aujourd'hui. Nicolas Sarkozy a fait sa savoir en effet qu'il n'assistera qu'aux audiences qui le concernent. Florence Turme.
Dans ce dossier, l'ancien président de la République est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale, quand les 13 autres prévenus le sont aussi pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et complicité de tous ces délits. Autrement dit, l'accusation considère qu'il a incontestablement bénéficié des fraudes révélées par l'enquête, mais elle n'a pas démontré qu'il les avait lui-même ordonnées. Jean-François Copé, alors patron de l'UMP, a bénéficié d'un non-lieu. Jérôme Lavrieux, son directeur de cabinet, également directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, les avait l'un et l'autre dédouanés de tout rôle actif lors de sa confession télévisée en mai 2014. Lui a reconnu sa participation à un système de double comptabilité, sous-facturation des meetings et sur-facturation des prestations annexes sur le compte de l'UMP qui ont permis de dissimuler un dépassement de près de 20 millions d'euros. Guillaume Lambert, directeur de la campagne, d'autres membres de l'équipe et de l'UMP devront aussi répondre des montages opérés. Quant aux dirigeants de Big Malion, ils restent sur la même ligne de défense. Oui, ils ont établi de fausses factures, mais en quelque sorte contraints par le parti afin d'être payés.
Réunis hier à Bruxelles, les 27 États membres sont tombés d'accord pour alléger les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les voyageurs qui viennent d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Il s'agit notamment d'harmoniser une relance du tourisme à la veille de l'été. Il n'y aura ainsi pas de quarantaine pour celles et ceux qui auront été totalement vaccinés. L'Europe a également prévu de publier très bientôt une liste des pays considéré comme sûr par rapport au Covid-19. En France, mis à part quelques accrochages en soirée à Rennes, mais aussi à Amiens ou encore à Bordeaux, la deuxième étape du déconfinement s'est globalement bien passée, avec du monde entre autres sur les terrasses et dans les salles de cinéma. Et comme la situation sanitaire continue de s'améliorer sur le territoire, les principaux des collèges demandent aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale le retour en classe de tous les élèves de 4e et de 3e. Depuis la fin des vacances de Pâques, en effet, dans une quinzaine de départements, c'est la règle de la demi-jauge qui s'applique, sauf que les directeurs d'établissement constatent une augmentation importante de décrocheurs, notamment en raison d'éducation prioritaire. En réseau d'éducation prioritaire, Philippe Vincent est le secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des personnels de direction. Il répond à Hakim Kasmi.
Dans les départements concernés, oui, on sent bien qu'il y a une demande des équipes de direction des collèges de pouvoir récupérer, si possible, tous leurs élèves en jauge pleine le plus rapidement possible, et en particulier pour les élèves de 4e et de 3e. Les collègues considèrent actuellement que le système en demi-jauge ne marque pas de vraie différence au plan sanitaire et que, d'une manière générale, on a plutôt un phénomène de décrochage des élèves qu'il faudrait tenter de réduire au plus vite en les faisant revenir dans les établissements. Alors, pas forcément perdus, mais en train de se perdre, parce que on voit bien qu'ils ont perdu vraiment l'habitude de venir dans l'établissement, qu'ils perdent aussi, du coup, les activités pédagogiques, travail scolaire, de rendu de devoir qui vont avec, et que dans un certain nombre de ces zones où on a des établissements plus ou moins compliqués, d'éducation prioritaire ou d'éducation prioritaire renforcée, on accroît malheureusement un phénomène de décrochage qui était déjà un peu naturel.
Aucune chance ou presque de voir aboutir à l'ONU la résolution française qui demande un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens. Les États-Unis continuent de jouer l'obstruction, même si Joe Biden réitère son appel à une désescalade sur le terrain, une hypothèse qui ne retient pas pour l'instant le gouvernement de l'État hébreu. Il demande à l'armée de poursuivre les bombardements sur la bande de Gaza. L'une des cibles principales des militaires, ce sont les tunnels creusés par le Hamas dans la partie nord de ce territoire palestinien. Frédéric Mettezo nous appelle de Jérusalem.
Ces tunnels, avec leurs rails, leurs installations électriques et téléphoniques, descendraient jusqu'à 40 mètres sous terre, avec des accès au pied des écoles ou des maisons particulières, selon des sources militaires israéliennes. Ils abritent du matériel, des fabriques d'armes, et ils permettent aux membres du Hamas de circuler plus facilement qu'en surface et de se protéger des bombardements israéliens. Israël utilise donc un nouveau type de bombe, similaire à celle utilisée par les États-Unis en Afghanistan en 2001 pour déloger Al-Qaïda et les talibans environnement des grottes de Tora Bora. Ces bombes fracturent le sol, puis elles explosent sous la chaussée. Ces conflagrations souterraines peuvent carrément retourner des maisons. Depuis la dernière guerre à Gaza, l'armée dit qu'elle a collecté des renseignements précieux sur ces tunnels. Un ingénieur palestinien, membre du Hamas, abattu en Malaisie il y a 2 ans, était l'un des logisticiens. Mais faute d'aller sur place ou d'une communication transparente de l'armée, il est difficile de mesurer l'étendue du réseau et le bilan humain et matériel des frappes contre ce métro. De sources diplomatiques européennes, on s'interroge. Il y a des tunnels, disent les Israéliens. On verra après. Où on ne verra pas.
Beaucoup moins de pluie aujourd'hui, mais toujours pas mal de nuages, notamment sur la moitié nord. Le soleil sera en revanche bien présent sur la Provence et sur la Corse. Les températures iront, elles, cet après-midi de 14 à 23 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Il fera beau à Bordeaux, où nous serons demain matin. Enfin, nous, pas vous, Olivier Doré, vous restez
à
Paris.
Je reste à Paris, fidèle au poste.
À demain, bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.